Oui, merci. D'abord, quelques réactions à ce qui vient d'être dit. On a parlé de ce chiffre terrible, 20% de droit, 80% de la force qu'il emporte sur le faible. C'est à peu près la proportion qu'on a entre la bêtise et l'intelligence. C'est pour ça que pour notre bibliothèque, de conserver du patrimoine, bien sûr, c'est une de nos tâches prioritaires, la qualité de la conservation qui implique de ne pas le faire passer dans toutes les mains. Mais nous avons 300 visites d'écoles par an. C'est une chose extrêmement importante de mettre les jeunes générations au contact des livres intelligents qui ont dénoncé la bêtise de la guerre. Et je prends que peut la plume contre le glaive, que peut un livre contre les canons, c'est justement que ça élève les consciences et que par le partage, cela peut faire une contagion, une contamination dans le bon sens du terme. Alors nous expliquons devant, je prends trois exemples extrêmement rapidement, l'Iliade est un texte fondateur, c'est le premier grand texte de la guerre, c'est Homère. Eh bien, il y a en marge de l'Iliade, on dit que Homère, pour ne pas se prendre au sérieux et pour se rappeler de la bêtise de la guerre, écrivait le soir des pages de la Batrachomyomachie, la bataille des grenouilles et des rats, pour en quelque sorte tourner en dérision ce que, dans les meilleures heures de sa création, il consacrait à la glorification des héros grecs et troyens. Deuxième exemple, c'est ce grand satiriste de l'Écosse, Jonathan Swift. Vous savez peut-être que dans les voyages de Gulliver, il y a un conflit presque planétaire autour de la question, est-ce qu'un œuf cuit dur, il faut le casser par le petit bout ou par le gros bout? Et il y a les gros boutistes et les petits boutistes, et ça donne une guerre qui part sur des prémices complètement minuscules. On a les mêmes exemples chez Rabelais, et puis bien sûr le Candide de Voltaire, où pendant que les rois se font des révérences et dansent en dentelle, eh bien, leurs armées se livrent à de véritables boucheries qui ne ressemblent en rien à un bal ou à une partie d'échecs. Alors, c'est ce type de leçon qu'on veut mettre sous les yeux des élèves qui nous rendent visite. Et je dois rappeler que le fondateur, Martin Bodmer, avait créé le secours intellectuel aux prisonniers de guerre. Il voulait que le droit d'avoir accès aux livres soit inscrit aussi bien que le droit à l'hygiène, que le droit à ne pas mourir de faim, que le droit à des soins si on est malade. Eh bien, il y avait des soins apportés par une bibliothèque dans les camps de prisonniers de guerre. Il a envoyé de sa poche 1,5 million de livres et nous avons, par exemple, un ouvrage de Jean-Paul Sartre qui dit « Sans les livres que vous avez envoyés quand j'étais prisonnier dans un camp allemand, je crois que je n'aurais pas tenu le coup, je crois que je me serais suicidé. » Même chose le 16 septembre 1946, Winston Churchill est venu voir Martin Bodmer pour lui dire « C'est extrêmement important cette nourriture spirituelle que vous avez donnée à nos soldats qui étaient prisonniers en Allemagne ou ailleurs chez les alliés de l'Allemagne. » C'est pour dire que nous avons cette mission de transmettre l'enseignement de qualité qui se trouve dans le livre et qui, c'est une raison d'espérer, même s'il y a ce terrible quota de 20% contre 80%, on peut dire qu'on peut croire qu'il y a une chance pour l'intelligence contre la bêtise. Et alors, j'en reviens à ta question, c'est-à-dire que nous avons fait, et c'est dommage que Madame Valovaya ne soit plus là, parce que c'est avec elle, c'est avec une préface d'Antonio Guterres, nous avons fait, en association avec les Nations Unies, une très grande exposition, Guerre et paix, et le manuscrit autographe de Guerre et paix de Tolstoï est sorti pour la première fois de l'histoire de l'humanité du musée Tolstoï de Moscou. Il est venu, il a été prêté tellement la cause était prise au sérieux. Il fallait lutter contre le démantèlement du multilatéralisme à cause d'un président américain qui s'était mis en tête de supprimer tous les accords qui avaient été jusqu'ici crus solides et stables. Nous avons fait une magnifique exposition avec des documents extraordinaires qu'a prêté le département fédéral des affaires étrangères, par exemple le traité de paix de Marignan avec le sceau de François Ier et des 17 cantons et épiscopats suisses. Nous avons eu des prêts extraordinaires des archives diplomatiques de la France et précisément de nombreux autres pays, dont ce prêt extraordinaire de Tolstoï et du livre par excellence qui était militant contre la bêtise de la guerre et pour le pacifisme, qui était « Guerre et paix ». C'est l'occasion de dire que nous travaillons ici à quelques mètres de la maison de la tante de Tolstoï, et quand il venait à Genève pour faire un pèlerinage à l'égard de Jean-Jacques Rousseau, qui était lui-même un grand pacifiste, eh bien, il ne manquait jamais de venir voir. Il dormait à l'hôtel des Bergues. Il venait voir sa tante parce qu'il était amoureux de la fille de celle-ci, sa petite cousine. Mais vous savez que dans l'enceinte de l'ONU, vous avez un pavillon qui était habité par la tante de Tolstoï. Donc, c'est un excellent souvenir que cette aventure commune avec Madame Valovaya, avec le CICR, et c'était Pierre Azan, qui est un grand négociateur, qui a lui-même écrit un livre « Faut-il négocier avec le diable ?» Oui, il le faut. À tout prix, il faut négocier, même avec les pires crapules. Et c'est lui qui était le commissaire scientifique.
Merci.